Chapitre 6. Le conte du grand-père. 1. En bon citadin pur et dur, Eddie fut presque choqué de constater combien il aimait la propriété des Jaffords sur la route du fleuve. « Je pourrais vivre dans un endroit comme ça, » se dit-il, « ce serait chouette, je m'en sortirais bien. » Il s'agissait d'une longue cabane en rondin construite avec habileté et protégée contre les vents d'hiver. Sur l'un des côtés, de grandes fenêtres ouvraient sur une longue colline en pente douce, descendant jusqu'aux rivières et jusqu'au fleuve. De l'autre côté se dressait la grange, et devant, la cour intérieure, de la terre battue joliment agrémentée d'îlots de verdure et de fleurs circulaires, et à gauche du porche de derrière, un petit jardinet plutôt exotique. La moitié était occupée par une herbe jaune du nom de madrigal, que Tian espérait faire pousser en grande quantité l'année suivante. Susanna demanda à Zalia comment elle s'y prenait pour empêcher les poules de venir picorer, et la jeune femme se mit à rire d'un air contrit en soufflant sur une mèche qui lui barrait le front. « Avec de gros efforts, voilà comment, » répondit-elle. Pourtant, le madrigal pousse bel et bien, et là où il pousse quelque chose, il reste toujours de l'espoir. Ce qui plaisait à Eddie, c'était cette façon que tout avait de marcher ensemble, qui faisait qu'on se sentait chez soi. Impossible de dire à quoi tenait exactement cette impression, parce qu'elle ne tenait pas à une seule chose, mais... Ben si, à une chose. Et ça n'a rien à voir avec le côté cabane en bois, ou bien le potager, ou encore ses poules gourmandes et ses plates-bandes de fleurs. C'étaient les enfants. Ils étaient si nombreux qu'au début, Eddie s'en était trouvé un peu abasourdi. Il s'était présenté à lui et à Susie, aligné comme un peloton attendant l'inspection d'un général en visite. Et, bon Dieu, à première vue, il y en avait presque assez pour former un vrai peloton, ou une escouade, au moins. Ceux du bout, c'est Haddon et Hedda, fit Zalia en montrant du doigt deux enfants à la chevelure blond foncé. Ils ont 10 ans. Présentez vos hommages, vous deux. Haddon esquissa un salut tout en frappant son front crasseux d'un point plus crasseux encore. Sur tous les fronts à la fois, pensa Eddie. Quant à la fille, elle fit la révérence. Que vos nuits soient longues et vos jours plaisants, dit Haddon. C'est que vos journées soient plaisantes et vos vies longues. Espèce de rigolo, chuchota Hedda en aparté. Puis elle fit la révérence et répéta le compliment de ce qu'elle croyait être de manière correcte. Haddon était trop intimidé par les deux habitants du monde de l'extérieur pour lancer à sa « je sais tout » de sœur un regard noir, ou même la remarquer. « Les deux plus jeunes, c'est Liman et Lia, » poursuivit Zalia. Liman, bouche bée et les yeux écarquillés, s'inclina si vivement qu'il en tomba presque par terre. Lia bascula bel et bien en pleine révérence. Eddie dut produire des efforts surhumains pour ne pas broncher, et Hedda ramassa sa petite sœur dans la poussière en sifflant. « Et celui-ci, » dit-elle en embrassant le gros bébé qu'elle portait dans ses bras, « c'est Aaron, mon petit amour. »« Votre singleton, » dit Susanna. « Si fait, madame, pour sûr. » Aaron se débattit, agitant les pieds et se tordant contre elle. Zalia le posa par terre. Aaron s'accrocha à sa couche et s'en alla en trottinant vers la maison, en appelant son pas à coups de hurlement. « Haddon, suis-le et occupe-toi de lui !» ordonna Zalia. « Maman, non !» lâcha-t-il en lui adressant des regards frénétiques pour lui faire comprendre qu'il voulait rester, écouter les étrangers et les manger des yeux.
« Maman, si !»
répondit Zalia. « Rentre surveiller ton frère, Haddon. » Le garçon aurait pu discuter plus longtemps, mais au même moment, Tian Jaffords apparut au coin de la maison et attrapa le petit garçon dans ses bras. Aaron se mit à gazouiller, fit tomber le chapeau de paille de son pas et se mit à tirer les cheveux mouillés de sueur de son pas. Eddie et Susanna remarquèrent à peine la scène. Il n'avait Dieu que pour les géants salopettes qui se tenaient derrière Tian. Ils avaient tous deux vu une douzaine de personnes extrêmement grandes lors de leur tournée des petites exploitations le long de la route du fleuve, mais toujours à distance. « La plupart sont timides avec les inconnus, vous intuitez ?» avait dit Eisenhart. « Mais ces deux-là se tenaient à moins de 3 mètres d'eux. » « Hommes et femmes ? Garçons et filles ?»« Les deux à la fois, » pensa Eddie. « Parce que leur âge n'a aucune importance. » La fille, en âge et là, mesurait au moins 2 mètres, avec des seins qui faisaient 2 fois la tête d'Eddie. Accroché à une cordelette autour de son cou, pendait un crucifix de bois. Le garçon dépassait sa belle-sœur de 20 bons centimètres. Il examinait les nouveaux venus d'un air timide, puis se mit à sucer son pouce, tout en se tenant l'entrejambe de l'autre main. Aux yeux d'Eddie, le plus remarquable chez eux n'était pas leur taille, mais leur ressemblance avec Tian et Zalia, une ressemblance à donner le frisson. C'était comme contempler le premier brouillon maladroit d'une œuvre d'art finalement réussie. Il était tellement évident qu'ils étaient arriérés tous les deux, et tout aussi évident qu'ils étaient très proches de gens qui ne l'étaient pas, eux. Le frisson était le seul mot qui lui venait en face d'eux. « Non, se dit-il, le mot exact, c'est crâner. « Voici mon frère Zalman, » dit Zalia d'un ton étrangement solennel. « Et ma sœur Tia, » ajouta Tian. « Présentez vos hommages, vous deux, espèce de balourd. » Zalman se contenta d'avancer un pas, le pouce dans la bouche, la main se malaxant l'entrejambe. Quant à Tia, elle leur offrit une gigantesque révérence en mettant les pieds en canard.
« Longue journée, longue nuit, longue terre » s'écria-t-elle. « On a des patates et de la sauce !»«
Très bien, » dit doucement Suzanne. « Les patates et la sauce, c'est bon. »«
Les patates et la sauce, c'est bon !»
Tia plissa le nez, découvrant ses dents sous sa lèvre supérieure retroussée en un rictus porcin et convivial.
« Des patates et de la sauce, des patates et de la sauce, des patates et de la sauce !»
D'un geste hésitant, Eda toucha la main de Susanna.
« Elle peut continuer comme ça toute la journée si on ne lui dit pas de se taire, Madame Sai. »
Chut, Tia !» dit Susanna. Tia lança vers le ciel un grand éclat de rire qui évoquait un braiement, croisa les bras sur sa poitrine prodigieuse et se tut.
« Sal, » dit Tian, « tu dois aller faire pipi, non ?»
Le frère de Zalia ne répondit pas, mais continua à se pétrir l'entrejambe.
« Va faire pipi, » reprit Tian, « va faire derrière la grange. Profites-en pour arroser les vivraves, grand merci. »
Pendant quelques secondes, il ne se passa plus rien. Puis Zalman se mit en branle d'une démarche ample, entraînant les pieds.
Quand ils étaient jeunes, commença Susanna, vifs comme du vif argent, tous les deux, répondit Zalia.
Maintenant elle est affreuse, et mon frère est encore pire. Elle porta subitement les mains à son visage. Aaron partit d'un grand éclat de rire et fit de même pour l'imiter.
Bouh, bouh,
fit-il à travers ses doigts. Mais les deux paires de jumeaux gardèrent leur expression grave, alarmée même.
« Qu'est-ce qu'elle a, maman ?»
demanda Liman en tirant sur le pantalon de son père. Zalman, inconscient de ce qui l'entourait, poursuivit son chemin vers la grange, une main dans la bouche et l'autre entre les jambes.
« Rien, fiston, ta maman va bien. »
Tian posa le bébé par terre, puis se passa le bras sur les yeux.
« Tout va bien. Pas vrai, Zi ?»«
Si fait, » dit-elle en baissant les mains. Elle avait les yeux rouges, mais elle ne pleurait pas.
« Et grâce au ciel, ce qui ne va pas ira. »
De vos lèvres à l'oreille de Dieu, répondit Eddie en regardant le géant cheminer lourdement vers la grange. De vos lèvres à l'oreille de Dieu. 2. Est-ce que votre grand-père est dans un bon jour ? Demanda Eddie à Tian quelques minutes plus tard. Ils avaient marché un peu afin que Tian puisse montrer à Eddie le chant qu'il appelait « fils de pute », laissant Zalia et Susanna s'occuper des enfants, grands et petits. « Si c'était le cas, vous l'auriez remarqué, » répondit Tian, plissant le front. Ces dernières années, il a l'esprit sacrément embrouillé et il se fiche pas mal de moi, de toute façon. Elle, d'accord, parce qu'elle lui donne à béquer et puis elle lui essuie la bouche quand il bave. Et elle lui dit grand merci. Comme s'il n'avait pas assez de deux ballots à nourrir, il faut que je me retrouve avec ce sale caractère en plus. Sa tête a rouillé comme un vieux gond. La moitié du temps, il ne sait même plus qui il est. Alors, dire quelque chose, petit, petit... Tandis qu'il marchait, les hautes herbes venaient bruisser doucement contre leurs jambes. À deux reprises, Eddie faillit trébucher sur des cailloux. Et une fois... Tian l'attrapa par le bras pour lui faire éviter ce qui ressemblait à un brise-patte modèle grande taille. « Tu parles qu'il appelle ce chant fils de pute, » pensa-t-il. Et pourtant, on notait ça et là des signes de culture. Difficile de croire que qui que ce soit ait réussi à planter un soc dans ce foutoir, mais on aurait dit que Tian Jaforce avait essayé. « Si votre femme dit vrai, je pense qu'il faut que je parle au grand-père. » Que j'entende son histoire. Mon grand-pa a des histoires, d'accord, des milliers. Le problème, c'est que la plupart, c'est des mensonges depuis toujours, et qu'en plus, maintenant, il les mélange. Il a toujours eu un accent lourd, et depuis 3 ans, il n'a plus ses 3 dernières dents. Il y a fort à parier que vous ne comprendriez pas un mot de son charabia. Je vous souhaite bien du plaisir, Eddie de New York. Mais que diable vous a-t-il fait, Tian ? C'est pas ce qu'il m'a fait, mais ce qu'il a fait à mon pas. C'est une longue histoire qui n'a rien à voir avec nos affaires, laissez tomber. Non, vous laissez tomber, lâcha Eddie en s'immobilisant. Surpris, Tian se tourna vers lui. Eddie hocha la tête sans un sourire. Tu m'as très bien entendu, disait son visage. Il avait 25 ans, un an de plus que Cuthbert Allgood, quand ces derniers avaient péri à Jericho Hill. Mais dans cette lumière déclinante, on aurait pu le prendre pour un homme de 50 ans, un homme d'une fermeté inébranlable. S'il a bel et bien vu un loup mort, il faut qu'on entende ce qu'il a à dire. Je n'intuite pas, Eddie. Ouais, mais je crois que vous intuitez très bien mon but. Quoi que vous ayez contre lui, mettez-le de côté. Si on arrive à se débarrasser des loups, vous aurez ma bénédiction pour le pousser dans la cheminée ou le pousser de votre foutu toit. Mais pour le moment, ravalez votre bile, ok ? Tian acquiesça. Il resta debout, là, les mains dans les poches, le regard perdu dans son champ de malheur, celui qu'il appelait fils de pute. Sur son visage, on lisait une expression d'avidité inquiète. « Vous pensez vraiment que son histoire de loup mort, c'est du blabla ? Si c'est le cas, ne me faites pas perdre mon temps. » À contre-cœur, Tian répondit. « J'aurais plus tendance à croire celle-là que les autres. Pourquoi ça ? Eh bien, il la raconte depuis que je suis assez grand pour l'entendre. C'est une des seules à n'avoir pas beaucoup changé. Et puis, les mots qui suivirent parurent écrasés comme s'il parlait les dents serrées. Mon grand-père n'a jamais manqué de courage et de panache. Si quelqu'un avait assez de cœur au ventre pour aller sur la route de l'Est et tenir tête au loup, sans parler du carme pour convaincre d'autres de l'accompagner, je parierais tout mon argent sur Jamie Jeffords. Du carme. Tian réfléchit au moyen d'expliquer le terme. Si vous deviez mettre la tête dans la gueule d'un chat des roches, il faudrait du courage, pas vrai ? Eddie pensa qu'il faudrait surtout être fêlé, mais il acquiesça. « Eh bien, pour convaincre quelqu'un d'autre de le faire, il faudrait du carme. Votre Dean,
Il a du charme, pas vrai ?
Eddie se remémora certaines choses que Roland avait réussi à lui faire faire et il hocha la tête. Roland avait du charme, ça, oui. Il avait même un charme d'enfer. Et Eddie était certain que les vieux compagnons du pistolero en seraient convaincus.
Si fait, dit Tian en reportant de nouveau le regard sur le champ.
Quoi qu'il en soit, si vous voulez tirer quelque chose d'à peu près sensé du vieux, à votre place, j'attendrai jusqu'après le souper. Il se ranime toujours un peu après avoir eu sa pâtée et sa demi-pinte de graffe. Et faites en sorte que ma femme s'asseye juste à côté de vous, qu'il puisse la voir. J'imagine qu'il aurait volontiers aimé avoir bien plus que ça s'il avait été plus jeune. Son visage s'assombrit de nouveau. Eddie lui donna une claque sur l'épaule.
Eh bien, il est plutôt jeune. Mais vous l'êtes, vous. Alors détendez-vous, d'accord ?
Si fait. Tian fit visiblement un gros effort dans ce sens.
Qu'est-ce que vous pensez de mon champ, pistolero ? Je vais planter du madrigal l'année prochaine. Ce truc jaune que vous avez vu dans le potager.
Ce qu'Eddie en pensait, c'est que ce champ ressemblait à un désespoir imminent. Et il soupçonnait Tian de penser la même chose au fond de lui-même. On ne baptisait pas son seul champ non cultivé fils de pute si on en attendait des merveilles. Mais il reconnaissait cette expression sur le visage de Tian. C'était celle qu'il lisait sur celui de Henry quand ils s'apprêtaient tous deux à aller se ravitailler. Chaque fois, ça allait être un super deal, le deal du siècle. Rien que de la chinoise blanche. Laisse tomber cette merde mexicaine qui te fait tourner la tête et qui te met les tripes à l'envers. Ils allaient planer pendant une semaine, planer comme jamais. Et après ça, ils laisseraient tomber la dope pour de bon. Ça, c'était l'évangile, selon Saint Henry. Et ça aurait pu être Henry à ses côtés dans ce champ, lui racontant la belle récolte de madrigal que ça ferait, et combien ceux qui lui avaient dit que rien ne pousserait aussi loin au nord allaient rire jaune à la prochaine moisson. Et alors, il achèterait le champ de Hugh Anselm, là-bas, derrière cette crête. Il prendrait un ou deux journaliers pour la moisson, parce que cette terre, ça serait de l'or, à perte de vue. Et pourquoi pas, il pourrait peut-être même arrêter complètement le riz et devenir un magnat du madrigal. D'un signe de tête, Eddie désigna le champ qui n'était même pas à moitié retourné.
Pourtant, il a l'air long à semer, j'imagine qu'il faut faire sacrément attention avec les mules.
Tian lâcha un rire bref.
Je ne me risquerai pas à amener une mule ici, Eddie.
Mais alors, j'arnache ma sœur. La mâchoire d'Eddie s'ouvrit malgré lui.
Vous vous foutez de moi ?
Pas le moins du monde.
J'aurais bien un archézal aussi, il est plus grand, comme vous avez pu le voir, et encore plus fort, mais pas aussi finaux. Ce serait beaucoup de problèmes pour pas grand-chose, j'ai essayé.
Complètement abasourdi, Eddie secoua la tête. Leurs ombres portaient loin sur la terre bosselée avec sa récolte de mauvaises herbes et de chardons.
Mais, mon vieux, c'est votre sœur.
Si fait, et à quoi d'autre vous voulez qu'elle passe ses journées ? Qu'elle s'asseye devant la grange à regarder les poules ? Qu'elle dorme de plus en plus, et qu'elle ne se réveille que pour ses patates et sa sauce ?
Ça vaut mieux comme ça, croyez-moi. Elle s'en fiche. Il faut batailler dur pour qu'elle fasse des sillons droits, même quand il n'y a pas de cailloux ou de trous tous les 10 pas. Mais elle tire comme un beau diable et elle rigole comme une folle.
Eddie finit par se laisser convaincre par l'ardeur de cet homme. Il n'était pas sur la défensive, en tout cas, Eddie n'en eut pas l'impression.
En plus, dans 10 ans, elle sera sûrement morte. Qu'elle nous aide tant qu'elle le peut encore, je dis. Et Zalia est de mon avis.
D'accord, mais pourquoi vous ne faites pas faire une partie du travail à Andy ? Je parie que ça irait plus vite qu'aujourd'hui. Vous tous, dans les petites fermes, vous pourriez vous le partager, vous avez pensé à ça ? Il pourrait élaborer les champs, creuser des puits, soulever une poutre de grange à lui tout seul. Et vous feriez des économies de patates et de sauce. De nouveau, il donna une tape sur l'épaule de Tian. « Ça, ça devrait vous convaincre. » La bouche de Tian se tordit.
« C'est un beau rêve, je suis d'accord.
Mais ça ne marche pas, hein? Ou plutôt, lui ne marche pas.
Il y a des choses qu'il veut bien faire, mais labourer les champs et creuser des puits n'en font pas partie.
On lui demande. Et alors c'est lui qui veut savoir votre mot de passe. Quand on n'a pas de mot de passe à lui donner, il vous propose de retenter votre chance. Et alors, il vous dit que vous êtes bien dans la mouise. À cause de la directive numéro 19.
Si vous êtes au courant, pourquoi vous posez la question ?
Je savais qu'il faisait ça au sujet des loups parce que je lui ai demandé. Je ne savais pas qu'il étendait ça à tous les sujets. Tian acquiesça. Il n'est pas bon à grand-chose, et parfois il est même pénible. Si vous ne l'intuitez pas maintenant, vous le verrez si vous restez longtemps. Mais ce qu'il sait faire, c'est nous dire quand les loups sont en route, et pour ça, nous lui disons tous grand merci. Eddie dut ravaler la question qui lui montait aux lèvres. Pourquoi le remercier quand ses nouvelles ne servaient à rien, sauf à les rendre plus malheureux encore? Bien sûr, ce coup-ci, ils allaient peut-être en tirer quelque chose. Ce coup-ci, les nouvelles d'Andy allaient peut-être apporter du nouveau. Est-ce que, monsieur, vous allez rencontrer un inconnu intéressant, avait cherché depuis le début? Amener les Falcons à se redresser sur leurs pattes arrière et à se battre. Eddie revit le sourire résolument obséquieux d'Andy et trouva un tel altruisme difficile à avaler. Juger les gens, et même les robots, à leur façon de sourire ou de parler n'était pas juste, pourtant tout le monde le faisait. Maintenant que j'y réfléchis, sa voix, qu'est-ce que j'en pense, de ce petit ton suffisant qui dit « je sais tout et pas vous » ou bien « c'est encore une vue de l'esprit. » Le problème, c'est qu'il n'en savait rien du tout. 3. C'est la voix de Susanna en train de chanter, accompagnée par les gloussements des enfants, de tous les enfants, petits et grands, qui ramena Eddie et Tian de l'autre côté de la maison. Salman tenait l'extrémité de ce qui ressemblait à une corde à bétail. Tia se tenait à l'autre bout. Souriant de toutes leurs dents, ils la faisaient tourner en larges boucles paresseuses, tandis que Susanna, assise sur le sol, récitait une chansonnette qu'Eddie se rappela vaguement. Zalia et ses quatre autres enfants sautaient tous ensemble, leurs cheveux se soulevant et retombant en cadence. Le petit Aaron se tenait à côté, sa couche à présent presque aux genoux. Il arborait un grand sourire rayonnant. De son petit poing potelé, il décrivait des moulinets en même temps que la corde. La bergère, dit le ramoneur, m'a rendu visite tout à l'heure et il m'a volé mon cœur. Plus vite, Zalman, plus vite, tiens, allez, faites-les sauter plus fort que ça. Tout à coup, Tia se mit à tourner son bout de corde plus vite et une seconde plus tard, Zalman synchronisa ses mouvements sur ceux de la jeune fille. Visiblement, c'était une chose dont il était capable. Riant aux éclats, Susanna accéléra le tempo de sa chanson. « La bergère rêve de bonheur, viens donc, petit ramoneur, mais lui se moque du bonheur. Ce qu'il veut, c'est faire le coureur. Ouah, Zalia, je vois tes genoux, ma fille. Plus vite, les gars, plus vite !» Les deux paires de jumeaux sautaient comme des volants de badminton, et Eddon s'était calé les poings sous les aisselles et faisait le coq. À présent qu'ils avaient dépassé l'effroi qui les rendait maladroits, les deux plus jeunes sautaient avec une harmonie presque effrayante. Même leurs cheveux avaient l'air de volter en touffes semblables. Cela rappela à Eddie les jumeaux Tevry, dont les taches de rousseur étaient parfaitement identiques. « Mais sache, sache, petit ramoneur !» Puis elle s'interrompit. Bon sang, Eddie, je ne me rappelle plus la suite.
Plus vite, les gars !
Dit Eddie au géant qui faisait tourner la corde. Ils obéirent, Tia en profitant pour lâcher vers le ciel assombri un de ses braiements tonitruants. De l'œil, Eddie enregistra le rythme de la corde, se penchant d'avant en arrière sur les genoux. Il posa la main sur la crosse du revolver de Roland pour vérifier qu'il ne s'envolerait pas.
« Eddie Dean, ça va pas la tête !» cria Susanna en riant.
Mais au passage suivant de la corde, il se glissa entre Edda et sa mère. Il se retrouva face à Zalia, dont le visage rouge étincelait de sueur, sautant avec elle en harmonie parfaite, déclamant le petit morceau de la chanson qui lui revenait en mémoire. Pour rester dans le bon rythme, il lui fallait presque débiter les paroles à la façon d'un commissaire-priseur dans une foire aux bestiaux. Ce n'est que plus tard qu'il remarqua qu'il avait changé le nom du méchant garçon, lui donnant un petit air typiquement Brooklyn.
« Mais sache, petit ramoneur, quel était tout ton bonheur, et qu'à trop faire le coureur, tu y as laissé ton cœur. Allez, les gars, tournez !»
C'est ce qu'ils firent, faisant tournoyer la corde si vite qu'elle devint floue. Dans ce monde qui lui paraissait monter et descendre le long d'une grande échasse sauteuse invisible, il aperçut un vieil homme aux cheveux vaporeux et aux tempes grisonnantes qui sortait de la galerie couverte comme un hérisson de son trou, scandant chaque pas de sa canne de bois de fer.
« Salut, grand-père »
pensa-t-il, puis il écarta momentanément le vieillard de ses pensées. Tout ce qui lui importait pour l'instant, c'était de ne pas perdre pied et de ne pas merder avec la corde. Enfant, il avait toujours adoré sauter à la corde, et il avait détesté l'idée de devoir laisser ça aux filles en se retrouvant à l'école primaire Roosevelt, ou bien de passer pour la pédale de service. Plus tard, en cours de sport au lycée, il avait redécouvert brièvement les joies de la corde à sauter. Mais jamais comme ça. C'était comme s'il découvrait ou redécouvrait un rite magique qui rattachait sa vie et celle de Susanna à New York, à cette autre vie. Et sans avoir recours à une porte ou à une boule magique ou même au Bahadash. Il riait comme un fou et se mit à bouger les pieds en ciseaux d'avant en arrière. Un instant plus tard, Zahalia Jaffors l'imitait, reproduisant ses moindres faits et gestes. C'était aussi délectable qu'une danse du riz, voire meilleur parce qu'ils dansaient tous à l'unisson. En tout cas, il était certain que c'était pour Susanna un moment magique et de toutes les merveilles passées et à venir, ces quelques instants chez les Jaffords devaient garder leur aura incomparable. Ils n'étaient pas deux à sauter en tandem, ni même quatre, mais six, tandis que les deux géants, idiots et hilars, faisaient tourner la corde aussi vite que le permettaient leurs bras gros comme des poutres. Tian éclata de rire, et se mit à battre la mesure de sa bottillonne en s'écriant
« Encore mieux qu'un tambour, pas vrai, mon salaud ?»
Et depuis la galerie, son grand-père lâcha un rire tellement mité que Susanna se demanda depuis combien de temps il le conservait dans la naphtaline. Pendant encore quelques secondes, la magie persista. La corde tournait si vite qu'on la perdait de vue et que la seule preuve de sa présence était le bruissement dans l'air, comme une aile, et le claquement régulier sur le sol. Les six personnes prises dans ce bruissement d'aile, depuis Eddie, le plus grand de tous, près de Zalman, jusqu'au grassouillé petit Liman, du côté de Tia, toutes montaient et descendaient comme des pistons dans un moteur. Puis la corde buta dans le talon de quelqu'un. Celui de Hayden, d'après ce que put voir Susanna, même si plus tard chacun se l'imputa à lui-même pour que personne ne se sente responsable, et ils s'effondrèrent dans la poussière, essoufflés et riant. Eddie s'attrapa la poitrine des mains et jeta un regard en direction de sa femme.
« Je fus une attaque, mon ange. Tu ferais bien d'appeler les pompiers. »
Elle se glissa juste près de lui et baissa la tête afin qu'il pût l'embrasser.
« Ne dis pas de bêtises. C'est plutôt mon cœur que tu attaques, Eddie Dean. Je t'aime. »
Il la regarda avec beaucoup de sérieux, levant les yeux de la poussière de la cour. Il savait que, quelle que fût la profondeur de son amour pour lui, il l'aimerait toujours plus en retour. Et, comme toujours quand il se faisait ce genre de réflexion, il lui vint un pressentiment, celui que le cas n'était pas leur ami, et que les choses finiraient mal entre eux. Si c'est le cas, alors ma tâche consiste à les rendre aussi belles que possible le temps que ça durera. Sauras-tu t'acquitter de ta tâche, Eddie ?
Avec grand plaisir, dit-il.
Elle haussa les sourcils.
Sais-tu, lui demanda-t-elle, ce qui, en langage de la Cala, signifiait « je te demande pardon » ?
Oui, répondit-il avec un grand sourire.
Tu peux me croire ?
C'est oui. Il lui passa un bras autour du cou, l'attira à lui, et l'embrassa sur le front, sur le nez, et pour finir sur les lèvres. Les jumeaux éclatèrent de rire et applaudirent. Le bébé loussa, et, sous la véranda, le vieux Jamie Jaffords en fit autant.
4. Après une telle dépense d'énergie, ils étaient tous affamés. Avec l'aide de Susanna dans son fauteuil, Zalia disposa un énorme repas sur la grande table à tréteaux devant la maison. Eddie trouva la vue géniale. Au pied de la colline poussait ce qu'il prit pour une variété particulièrement dure de riz qui atteignait maintenant la taille d'un petit homme. Au-delà, le fleuve était illuminé par les lueurs du couchant.
« Dis donc un petit mot, Zi, si tu veux bien, » suggéra Tian.
Elle eut l'air ravie de s'exécuter. Susanna apprit plus tard à Heidi que Tian n'avait jamais accordé beaucoup d'importance à la religion de sa femme, mais que les choses avaient eu l'air de changer depuis que le père Callahan avait surpris Tian en prenant sa défense lors de la réunion de la ville.
« Les enfants, baissez la tête. » Quatre têtes s'inclinèrent, six en comptant celles des grands-enfants. Liman et Lia fermaient les yeux tellement serrés qu'ils avaient l'air en proie à une effroyable migraine. Ils avaient croisé les mains devant eux, propre et rosy par l'eau froide de la pompe.
Bénissez ce repas, Seigneur, et faites que nous éprouvions de la gratitude. Merci pour la compagnie que vous nous envoyez, que cette rencontre soit heureuse pour eux et pour nous. Délivrez-nous de la terreur qui vole à midi et de celle qui rampe la nuit. Grand merci.
Grand merci, s'écrièrent les enfants. Tia d'une voix de stentor qui fit vibrer les fenêtres. « Au nom du Père et de son Fils, l'homme Jésus » fit-elle. « L'homme Jésus !» répétèrent les enfants en chœur.
Eddie constata avec un certain amusement que le grand-père, qui exhibait un crucifix presque aussi gros que celui de Zalman et de Tia, restait assis les yeux ouverts, secouant tranquillement le nez pendant le bénédicité.
« Amen. Amen. »
« Patate !» cria Tia.